passionné d'art urbain, de boutons de manchette et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Vous savez que de nombreuses familles québécoises sont aux prises avec des enjeux d'infertilité. De nombreuses femmes québécoises vivent ça également. Et ben là, on se tourne vers des banques de donneurs. Et il y a des délais, il y a de la complexité. C'est difficile. À ce point où certains et certaines se tournent vers les médias sociaux, marketplace et autres, où il y a une espèce de marché parallèle. Et c'est à la fois presque caricatural, mais peut-être qu'il y a une problématique encore plus grande et sérieuse derrière ça. Mais justement, pour en parler, Madame Céline Brown, qui est présidente de l'Association Infertilité Québec. Bonjour, Madame Brown.
Bonjour, Monsieur Lavoie.
Alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne normalement au Québec, là, si quelqu'un a besoin d'avoir une banque de donneurs.
Logiquement, on pourrait aller en clinique de fertilité. Que ça soit public ou privé. Et là, il y a des banques de donneurs. Aujourd'hui, c'est certain, ces banques-là sont vides ou quasi vides. Il y a des cliniques qui ont des donneurs et des paillettes de sperme en réserve uniquement pour les fratries. Et ce qui oblige parfois certaines personnes d'aller via les médias sociaux. C'est pas la meilleure des solutions, c'est pas sécuritaire, on sait pas sur qui on va tomber, des certificats médicaux falsifiés probablement. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup à l'association.
Alors, deux questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y aurait, et les gens vont trouver ça un peu particulier, une pénurie dans les banques?
Au Canada, déjà, premièrement, tout ce qui est tissu humain n'est pas monnayable. Donc, trouver des donneurs qui veulent donner sans rémunération, c'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup. Aux États-Unis, les banques de sperme payent les donneurs, les donneuses d'ovules, afin de les rémunérer sur ce tissu humain qui est transmis ensuite à quelqu'un d'autre.
Ben, parlons de ça juste rapidement, Mme Brown, parce qu'évidemment, le contexte américain est intéressant. Aux États-Unis, souvent, on paye pour avoir du sang ou d'autres dons de tissu humain comme vous présentiez là. Au Canada, on a interdit ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à partir du moment où il y a... je dirais, la volonté d'avoir le pécule, d'avoir de l'argent, où on se retrouve avec des donneurs qui sont des populations encore plus vulnérables, encore plus à risque?
Selon moi, quand on est donneur et si c'est bien réglementé au niveau des donneurs de sperme, donneuses d'ovules ou autres tissus humains, on va donner notre sang est contrôlé, on a un bilan de santé qui est effectué auparavant. Donc, pour moi, et selon moi, si maintenant on rémunérait maintenant une donneuse d'ovules ou un donneur de sperme, il y aurait la sécurité aussi d'avoir eu l'examen médical au préalable afin de s'assurer aussi que la personne est en santé. On peut aussi réglementer le fait qu'un donneur ne peut pas faire plus que tant de dons, ce qui empêcherait également toutes les grosses fratries du même donneur. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables et qui seraient discutables à mettre en place au Canada.
Pouvez-vous nous donner une idée des tarifs aux États-Unis? Ça peut représenter quoi, là?
Oh, présentement, je pourrais pas vous dire. Ça a tellement changé pendant la pandémie. Il y a les stocks qui ont aussi descendu. Donc, je pourrais pas...
Mais est-ce qu'on est dans les quelques dollars, plusieurs centaines, des milliers?
Non, on est dans plusieurs milliers de dollars, là. Je vous dirais, ça peut varier entre 1000 et 2500, voire plus, suivant la banque de sperme que
vous avez. Ça, c'est pour en acheter, mais lorsque, aux États-Unis, par exemple, il y a des donneurs ou des vendeurs, combien ça peut rapporter à peu près?
Aucune idée.
Bon. On parlait des... Lorsque c'est dans des cliniques, donc, qui ont pignon sur rue, qui sont honorables, enregistrées et autres, versus sur les médias sociaux, là... qu'il y avait des enjeux ou des risques sur la santé physique et autres. Parlez-nous de comment ça peut s'incarner, ces risques-là.
Ben, je vous donnerai tout simplement l'exemple que j'ai eu il y a quelques années. Une donneuse québécoise a eu recours à un donneur d'une autre ethnie. Il s'est avéré qu'une fois la naissance de l'enfant, l'enfant allait bien. Mais en grandissant, il a eu un problème de santé, un cancer, où il a fallu avoir un don de moelle osseuse. Bien, la personne n'a pas trouvé de donneur compatible ici au Québec. Elle a dû engager tous ses frais de voyage et aller chercher un donneur dans le pays d'où provenait son donneur afin de pouvoir sauver son enfant. Ça, ça a été vraiment le plus gros problème qu'on a rencontré suite à un donneur sur les médias sociaux, parce qu'elle n'a pas réussi de retracer la personne qui avait fait le don de sperme.
Mais attendez, là, parce que ça ouvre un pan là, de questions. Quelqu'un qui a recours à une banque de donneurs de sperme,
oui.
Est-ce que l'identité du donneur, elle est privée, garantie, ou le caractère anonyme du donneur, ou non, on peut retrouver, retracer? Là.
Bien, comme les donneurs dans les banques de sperme sont quand même ils ont eu des examens médicaux, on a regardé les génétiques, j'imagine qu'on va quand même plus loin. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on peut retourner contre la banque de sperme et aller chercher les traces du donneur parce qu'ils gardent les noms. Même si le don est anonyme pour le receveur, la banque de sperme a les coordonnées du donneur.
Oui, bien, ça laisse... il peut y avoir certains doutes ou critiques. Évidemment, on se souvient là, de certains films qui poussent ça. C'est quoi la relation légale entre le donneur et éventuellement l'enfant qui est né?
Ben,
par exemple, est-ce qu'il peut y avoir un droit de paternité qui pourrait être exigé a posteriori, soit parce que la personne soudainement se dit « j'ai le goût de rencontrer cet enfant-là », est-ce que l'enfant lui dit « j'aurais le goût de rencontrer la personne » ou encore, là, ça peut être pire, ça peut être des demandes des droits de garde, des droits de contribution, d'allocation, de soutien de l'enfant, jusqu'où ça peut aller ou pas, cette chose-là?
Ben, ça peut arriver qu'un donneur, et c'est arrivé qu'un donneur se trouve tout d'un coup le goût à la paternité, qu'il ne veut plus rester juste simple donneur. Puis il intente en justice contre la personne pour obtenir les droits de parentalité. Donc, c'est arrivé.
Mais comment les cours traitent ça?
Pardon?
Comment est-ce que les cours traitent ça? Parce que je suis pas mal certain que lorsque l'achat se fait, c'est pas pris en compte du tout, ça.
Mais il n'y a pas de contrat sur les médias sociaux. Il n'y a pas de clause dans les signatures qu'on achète comme quoi le donneur donne exclusivement son sperme sans droit de parentalité dessus. Les gens reçoivent ça comme ça de main à main dans un petit pot de plastique. Souvent, elles font leurs inséminations artisanales à la maison. Il n'y a pas rien d'écrit.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans tous les cas de figure, si on est pour utiliser cette méthode-là, la pire des choses à faire, c'est de s'en remettre avec un monde parallèle à celui des professionnels. Pour des enjeux de santé, pour des enjeux légaux, c'est probablement pas une bonne idée de partir une éventuelle maternité sur des bases de santé et des bases légales aussi chancelantes.
Exactement. Selon moi, on pourrait trouver le donneur, se présenter dans une clinique, dire « voici, j'ai mon donneur, il va me donner les paillettes, on va faire les examens médicaux, tout va être sécuritaire dans un milieu médical, et en plus, ça sera couvert par la RAMQ. » Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a zéro obligation de passer par les réseaux sociaux puis de faire quelque chose tout seul à la maison.
Mais puisque, et d'ailleurs on en parle dans le Journal de Montréal, est-ce qu'il s'agit ici d'un phénomène, vous nous parlez ici de quelque chose qui arrive presque jamais, c'est presque caricatural ou non, il y a une véritable tendance, puis vous savez, on dit en anglais, en vieil anglais, « de minimis non curat lex », l'État s'occupe pas des choses triviales. Est-ce que le phénomène dont vous nous parlez ici est trivial ou il y a une tendance suffisamment importante et préoccupante pour que l'État s'en mêle?
Ben, moi, je pense qu'il y a une tendance qui est en augmentation présentement du fait que les banques de sperme sont basses. Donc, ça ouvre à beaucoup de problèmes médicaux futurs. Probablement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je pense que ce serait quelque chose à ouvrir sur une discussion très très sérieuse avec le gouvernement, le fédéral, le provincial, afin de pouvoir trouver des solutions à ce qu'on trouve des banques de sperme fiables et sécuritaires ici au Canada.
Et pourquoi ça relève du, vous avez dit, le gouvernement du Québec, le fédéral, c'est une juridiction partagée?
Non, mais en fait, au fédéral, on pourrait demander qu'ils ouvrent, en fait, à rémunérer les donneurs au niveau des tissus humains, parce que c'est une loi fédérale qui l'empêche. Et au niveau du Québec, on pourrait regarder afin de mettre une loi en place qui dit que on pourrait ouvrir ces banques de sperme avec des lois bien précises, des obligations de par le ministère de la Santé de dire il faut des examens médicaux. On est rendu qu'il faut aussi un examen génétique. Le donneur ne peut pas donner plus que tant de semences. Ça pourrait être très bien réglementé au niveau du ministère de la Santé.
Et potentiellement criminaliser le commerce des tissus humains sur d'autres sur n'importe quelle plateforme qui serait pas pré-autorisée à ce moment-là. Céline Brown, fort intéressant. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association Infertilité Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, M. Lavoie. Bon après-midi.
Au plaisir.